Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Je vous préviens, si vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui ne le vous rend pas, cet épisode va vous mettre du baume au cœur. Car oui, en amour, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Et Camille en a fait la merveilleuse expérience.
On est en 2013, j'ai 15 ans. Parce que du coup, j'ai sauté une classe et du coup, je rentre en seconde. Cette année, je me sens vraiment pas bien dans mon corps parce que du coup, je vois qu'autour de moi, les filles sont assez minces et que moi, en l'occurrence, j'ai un peu plus de forme et je commence à me comparer et à me dire qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Et malheureusement, à cet âge-là, on est beaucoup dans la comparaison. Donc, de fil en aiguille, je commence à sauter un repas, puis deux. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que je finis par manger juste le matin et le soir, manger trois feuilles de salade. Quand je reviens chez moi, à la maison, c'est toujours un jeu avec mes parents pour leur expliquer qu'en fait, j'ai trop mangé à midi, donc c'est pour ça que je mange pas le soir. Finalement, ils vont vite se rendre compte qu'il y a un problème, hein, mais une fois dans l'engrenage, c'est assez compliqué de s'arrêter. Mon corps va finir par changer, je vais perdre environ 20 kilos et au fur et à mesure que je perds ces kilos, je me dis que je rentre dans le moule et que les gens me voient enfin parce que j'avais vraiment l'impression, cette impression d'être invisible, cette impression de pas être regardée et dans mon regard de jeune fille, il fallait absolument rentrer dans ce moule. Sauf qu'un jour, au bout d'un moment, je me suis vraiment regardée comme j'étais. J'ai vu que j'avais les côtes qui étaient très très voyantes. Et je me suis dit, mais je me suis perdue, c'est pas moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été fine, j'ai toujours eu des formes en fait. Je me suis pas reconnue, je me suis fait extrêmement peur. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est bon, stop, je veux arrêter de ne plus manger. Par contre, à ma reprise de poids, c'est à ce moment-là que je me fais aider et que je demande une aide parce que je sens que c'est pas possible de le faire toute seule et que je fais n'importe quoi. Donc je passe de 40 kilos à 67 et je me souviens que du coup à ma rentrée de première, j'arrive et personne ne me reconnaît. C'est quelque chose d'assez dingue et assez marquant dans ma vie. Personne ne m'a reconnue. Après cette étape de choc, ce qui se passe, c'est que petit à petit, mes copains et copines comprennent que finalement, j'ai été victime de TCA. TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. Donc moi, ça s'est montré sous deux phases. La première phase, le premier temps, j'ai été anorexique. Et en deuxième temps, quand j'ai pris du coup mes 27 kilos, j'ai été hyperphagique. Ce qui signifie que je mangeais énormément. Du coup, avec tous ces changements de corps, etc., moi, je me sens plus en paix avec moi-même parce que du coup, je retrouve une part de mon identité. Avec les formes, évidemment, contrairement à ce que je pouvais penser, il y a le regard des garçons qui arrive aussi et qui, contrairement à d'autres filles, ne me gênait pas forcément parce que j'avais toujours été formée avant les autres. Donc à ce moment-là, je suis OK avec ce regard. Et c'est surtout un regard qui me plaît. On commence à parler de sexualité avec des copines. Enfin, c'est les débuts, quoi. Dans cette année de première, du coup, très rapidement, donc au bout de 3-4 jours, je fais ma rentrée. Et effectivement, je flash complètement sur un garçon de Terminal S qui s'appelle Gauthier. Dès que je le vois, je me dis, mais il est incroyable, il est grand, brun, il se tient droit, il regarde droit devant lui, il a un petit peu ce regard déterminé. Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi de ma première rencontre avec lui, donc on s'est croisés dans un couloir du lycée, et qu'il a laissé derrière lui une espèce d'odeur de menthe fraîche. Cette odeur m'a vraiment laissé une trace, quoi. J'étais un petit peu subjuguée. Je me suis dit, ah, mais ce mec, c'est le garçon parfait. Et donc, très rapidement, en fait, il est devenu une obsession, hein, très clairement. Gauthier, il n'est pas du tout dans mon groupe d'amis. Il est dans une classe au-dessus de la mienne. Il est en terminale S. Mais du coup, j'essaye quand même d'attirer un peu son attention en passant devant lui aux récréations. Dès que sonne 10h, je me rappelle qu'avec mon groupe de copines, on était 3 copines, on fait des allers-retours pour essayer de voir s'il pourrait regarder dans ma direction, ce qu'il ne fait pas du tout. Et par un heureux hasard, donc Lisa, une de mes meilleures amies, se met en couple avec quelqu'un qui s'appelle Bastien. Et ce Bastien va un peu devenir mon messager, parce que du coup, il est de temps en temps dans le groupe de Gauthier et de ses copines. Et donc, par Bastien, je vais pouvoir avoir des informations sur Gauthier. Donc, j'apprends qu'il est célibataire. Donc, je me dis, bon point pour moi. On verra ce que je peux faire avec ça. J'apprends aussi qu'il est pompier volontaire depuis 2 ans. Donc là, il y a ce mythe du pompier qui revient, parce que dans nos jeunes têtes d'adolescents, on a quand même déjà ce fantasme du pompier, hein, je tiens à le préciser. Je sais aussi qu'il fait de la natation, qu'il fait des compétitions, etc. Donc je comprends du coup la carrure du sportif qu'il a déjà. Et puis surtout qu'il fait de la danse, il fait du West Coast Swing, donc c'est une danse originaire des États-Unis. Et là, c'est pareil, pour moi, il marque 10 000 points. Et je me dis, mais c'est incroyable, un mec qui danse, qui peut trouver mieux, quoi. Donc, il devient très, très rapidement un fantasme. Et voilà, une obsession à laquelle je vais essayer de me rapprocher le plus possible. À partir de la première vingtaine de septembre, on a vu une affiche se coller à une vitre de la vie scolaire. Et sur cette affiche, c'était écrit « Donne des cours de West Coast Swing de 13h à 14h le jeudi ». Et moi, je me suis dit « La coïncidence est beaucoup trop grande pour que ce ne soit pas Gauthier ». Donc j'ai demandé à Lisa de demander à son copain Bastien de voir si c'était bien lui. Effectivement, c'était lui qui donnait des cours de danse. Et je me suis dit, ok, je peux pas rater cette opportunité. On est en début d'année, je sais qu'il est célibataire, je peux potentiellement tenter quelque chose. Parce qu'il faut bien comprendre vraiment qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil. J'avais jamais été aussi subjuguée, aussi éprise de quelqu'un, quoi. Donc je suis vraiment prête à tout pour retenir son attention. Ce qui se passe du coup, c'est qu'avec mon meilleur ami, Jules, je commence à lui dire, écoute, Gauthier, il donne des cours de danse, il faut absolument que je vienne avec quelqu'un parce que ça se pratique en couple. Et donc, je veux pas venir comme ça, comme une potiche. Et au début, Jules, il me dit, non, Camille, je veux pas venir, je sais pas danser. Et je lui dis, mais justement, il va pouvoir nous enseigner comment danser et puis tu peux bien me rendre ce service, quoi. Je te rendrai l'appareil, t'inquiète pas, etc. Et il finit par céder. Et du coup, on se rend au premier cours de Gauthier. Le West Coast Swing, c'est une danse, du coup, comme je disais, originaire des États-Unis. Ça se danse souvent en couple. Et c'est des mouvements assez libres, contrairement au rock, à la salsa, à la bachata. Si je dis pas de bêtises, c'est une danse en 8 ans, mais où du coup la cavalière va se faire guider, principalement guider. Elle n'est pas, en tout cas en cours débutant, elle n'est pas libre de ses mouvements. C'est vraiment le mec qui va guider la cavalière. C'est aussi ça qui a participé au fait que je m'émerveille de Gauthier, c'est que quand il donne ses cours, il demande forcément à une fille du public, ou en tout cas de ses élèves, de venir. Et ce qui fait vibrer mon cœur à ce moment-là, c'est le fait que plusieurs fois, à 3 reprises il me semble, il me demande de montrer l'exemple sur cette danse et du coup il m'invite à danser. Je me souviens d'avoir les mains super moites, j'ai les jambes qui tremblent et je me dis mais je vais pas réussir à le suivre, quoi. Et finalement ça se fait de manière très très fluide parce que c'est un très bon danseur, il est très sûr de lui et on se laisse rapidement guider et je me dis mais waouh. Je me rappelle me dire, il me touche en fait, il me touche. Donc au bout d'un moment, la danse se termine. Et moi je dis à Jules à chaque fois, je me souviens, il faut absolument que je le voie après un cours et que je lui demande son numéro. chose que je n'ai jamais réussi à faire. Donc du coup, très rapidement, je continue à aller prendre des cours avec lui, mais je me dis qu'il va falloir que je mette une autre stratégie en place si je veux me rapprocher de lui, parce que clairement, ben, aux récréations, j'arrive pas à me rapprocher de lui. En cours de danse, j'arrive pas à aller lui parler. Donc je me dis qu'il va falloir que j'enclenche la deuxième, et c'est ce que je fais, puisque du coup, je me dis que peut-être Gauthier est sur Facebook. Alors je tape son prénom et son nom de famille, et je le demande en mamie. À ma grande surprise, il m'accepte. Moi, j'attends pas, hein. Je lui envoie directement un message et je lui dis « Salut, on s'est déjà vu en cours de danse. J'ai besoin de tes conseils pour choisir une école. J'aimerais bien faire de la salsa, de la bachata, du rock. Est-ce que t'aurais une école à me conseiller ?» Il me répond un jour plus tard en me disant « Oui, j'en connais deux ou trois, mais la meilleure que je connaisse, c'est chez Agnès. » Donc je m'inscris chez cette fameuse Agnès et je commence à prendre des cours de salsa, bachata et de rock. Sauf que au bout d'un moment, cette fameuse Agnès me dit « Écoute Camille, t'es bien gentille, mais là, t'as pas de partenaire de danse et il y a quand même le gala de fin d'année à prévoir. Il va falloir que tu te trouves quelqu'un, sinon tu vas danser avec Michel du cours d'avant, 56 ans, et moi j'avais pas du tout envie de danser avec Michel, quoi. » Et pendant toute l'année scolaire, du coup, il n'y a pas eu d'autres rapprochements avec Gauthier, j'ai pas réussi à me rapprocher plus de lui, mais il y a toujours eu ce truc de le cœur qui bat quand je le croise dans les escaliers, dès qu'il me dit bonjour, c'est limite si je lui réponds pas bonsoir. Enfin vraiment, un bégaiement total dès qu'il m'adresse la parole, ou alors dès qu'il me regarde, j'en parle pendant 10 heures à mes copines, mais il y a rien. Mais je veux tenter le tout pour le tout, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que en avril, je lui renvoie un message sur Facebook, et je lui dis « Écoute, j'ai vraiment personne pour être mon partenaire de danse, et je ne sais pas à qui, de toute façon, je me pourrais demander, parce que Jules, mon meilleur ami, est vraiment pas à l'aise, et lui, c'est catégorique, il voudra pas être mon partenaire. Donc je suis désolée, pour moi, t'es la personne la plus apte à l'être. » Et donc il me dit « Écoute, laisse-moi un petit moment pour réfléchir. » Donc je lui laisse 2-3 jours, il revient vers moi en me disant « Ok, bon bah je t'accorde 2 cours et le gala. » Donc là, je suis heureuse, je retourne au lycée, je le dis à mes copines en disant « Bon bah voilà, petite victoire, Gauthier va être mon partenaire de danse. » Et donc je le dis à mon meilleur ami « Non mais tu sais pas quoi, Gauthier a accepté d'être mon partenaire de danse. » Enfin bon, bref, je les saoule pendant au moins 2 semaines. Arrive le jour où du coup, on fait les répétitions. Je me dis « C'est fou parce que là, je vais pouvoir avoir un moment privilégié avec lui. » Puisque du coup, c'est mon partenaire de danse. Et je me dis encore, waouh, mais c'est fou, quoi. Enfin, c'est fou, il est parfait. Et donc, il revient la semaine d'après pour faire cette deuxième séance, pour parfaire les pas, etc. Et pour conclure, du coup, la figure finale de la dernière chorégraphie. Cette fameuse figure finale où, du coup, je me retrouve sur ses genoux. Alors là, c'était... Même pendant les répétitions, ça a été quelque chose. Je me souviens encore me dire, oh là là, mais imagine... je m'assois et en fait il tombe parce que je suis trop lourde, enfin vraiment des pensées limitantes que j'aurais jamais dû avoir, mais bon voilà. Et puis du coup on se rappelle quand même que cette année de première j'étais en surpoids et puis je m'étais pris quand même 27 kilos d'un coup, donc j'étais certes plus à l'aise avec mon corps que quand j'étais anorexique, mais j'étais pas totalement à l'aise non plus. Donc bon, le gala arrive, je suis super excitée, je suis super anxieuse parce que j'ai dit à mes copines que j'allais enfin dire à Gauthier à la fin de ce gala que j'avais des sentiments pour lui, que j'allais me lancer, quoi. Donc, il y avait le stress du gala, plus le stress de l'annonce que je m'étais fixée après le gala. Et puis, surtout, mes parents venaient nous voir à ce gala, et mes grands-parents aussi. Donc, j'allais enfin pouvoir leur montrer ce fameux Gauthier dont je leur parlais, bah, du coup, depuis un an. Et à la fin du gala, du coup, je me retrouve sur ses genoux, et je me dis que c'est le plus beau jour de ma vie, et qu'en plus de ça, mes parents ont immortalisé, puisqu'ils ont filmé les 3 chorégraphies. Et je me dis, mais c'est fou, j'aurai des souvenirs toute ma vie, quoi. Et donc, on rentre dans les vestiaires. Je me rappelle que j'ai une espèce de petite robe à volant blanche, et que lui, il a un costume avec un chapeau. Et je me change, et quand je finis de me changer, je le retrouve, et il me dit, bon bah voilà, c'est super, t'as géré, t'as super bien dansé, c'est bien. Et je lui dis bah non, mais merci à toi, merci de t'être rendu disponible, etc. Et dans l'euphorie finalement du gala et du fait qu'on avait réussi à le faire tous les deux, je me lance et je lui dis bah écoute, tu me plais, je pense que tu l'as remarqué. Est-ce que tu veux qu'on essaye de se voir en dehors du lycée ou qu'on essaye de tenter quelque chose? Et en fait, il me répond pas froidement du tout, hein, juste il me regarde dans les yeux. Et puis il me dit, mais Camille, tu me plais pas du tout physiquement. Et là, bah, grosse douche froide. Et je me dis, ok, fin d'histoire. C'est très violent et en même temps, je ressens quand même du soulagement, finalement. Parce que je me dis, ok, bah, j'ai poussé le truc jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au bout de mes idées, je suis allée jusqu'au bout de cette histoire. Hein. Franchement, j'ai tout fait pour qu'on se rapproche, j'ai tout fait et ça le fait pas. Donc, ben, j'ai aucun remords et je peux passer ben, à une autre étape de ma vie. Et puis, il y a aussi ce truc, à ce moment-là que je trouve rationnel, où je me dis, bah oui, mais finalement, un garçon comme ça, c'est normal qu'il veuille pas d'une fille comme moi, quoi. Parce que, ben, à ce moment-là, je me trouve pas à son niveau physiquement. Et clairement, c'est une pensée que j'ai et j'en suis persuadée. Donc, pour moi, c'est aussi la fin logique. Mais je fais quand même assez rapidement mon deuil, puisque du coup, c'est une réponse sèche et sans équivoque, en fait. Après cette douche froide, ce qui se passe, c'est que je m'intéresse plus forcément aux garçons. Enfin, en tout cas, je me dis que je vais me mettre à fond sur moi. Donc, toute l'année de terminale, j'ai pas de nouvelles de lui, évidemment, parce que lui, il passe en études supérieures. Et moi, je suis complètement concentrée à me remettre au sport, à essayer de guérir de mes troubles du comportement alimentaire. Ce que je réussis, entre guillemets, à faire, parce que j'ai toujours de temps en temps des crises, mais beaucoup moins fréquentes. Je prends soin de ma santé mentale en allant chez une psychologue, donc je suis accompagnée, je me remets au sport, j'arrive à perdre 6-7 kilos et du coup mon année de terminale je me sens beaucoup plus confiante en moi, donc je commence à m'aimer et je cherche plus vraiment l'amour dans le regard de quelqu'un d'autre, donc cette année de terminale elle a été assez saine quoi, pour moi et dans ma vie future elle a été assez importante. Donc après cette année de terminale, moi je rentre en études supérieures aussi et je fais la rencontre déterminante d'une fille qui s'appelle Rose, qui va être une de mes meilleures amies. Ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive en double licence, et très rapidement, du coup, on se lie d'amitié avec Rose. Et à l'été qui suit, elle me propose de partir en Colombie, parce qu'elle est partie 6 mois à Toronto et qu'elle a rencontré une Colombienne qui l'invite chez elle, qui lui propose d'inviter elle-même une de ses amies. Moi, j'ai jamais voyagé. Donc du coup, je lui dis directement, ben oui, pas de souci. Et donc, à l'été 2018, on part en Colombie. À ce moment-là, du coup, je suis en Colombie avec Rose et Magali, du coup, la copine colombienne de Rose. Et on a une idée un petit peu débile avec mes copines de se lancer un défi. Donc ce qui se passe, c'est que on télécharge toutes les 3 Tinder et on se dit, ok, ben, on a 3 semaines. En 3 semaines, on doit au moins avoir fait un date avec un garçon. Et donc on se lance dans cette course folle au date. Et à la fin du séjour, il restait plus que moi. Sauf que moi, j'avais pas forcément matché avec des gens qui m'intéressaient. Sauf que bon, bah c'était les règles du jeu. Donc elles me disent, oui, mais tu peux pas y déroger. Tu dois forcément avoir un date avec quelqu'un. Et à ce moment-là, je sais que dans mes DM Insta, il y a un garçon qui s'appelle Roulian, qui me parle, et qui me parle en plus français. Qui me propose d'aller boire une bière. Et je me dis, bon bah, si c'est un Colombien qui en plus parle français, ça va simplifier les choses. Donc du coup, je lui réponds et je lui dis, bah écoute, c'est ma dernière soirée sur Bogota. Si tu veux, on peut se rencontrer. Et il me dit, oui. On se retrouve dans un bar assez connu à Bogota, sur la rue 85, qui s'appelle Chamois. Roulian, c'est un garçon du coup qui a tout le temps le sourire, il est très très jovial, il est grand, il fait 1m90 pour un Colombien, c'est assez atypique parce que là-bas ils sont tous assez petits, en tout cas les hommes ils font à peu près un peu moins d'1m70. Lui il fait 1m90, il fait 90 kilos, il a le teint hâlé, il a les cheveux noirs, il porte une barbe aussi, et puis surtout il est très 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 friendly, il est très sympathique, il est très avenant. Et donc très rapidement, moi, je tombe sous le charme et je me dis que, ça serait dommage que ce soit juste pour un soir, quoi. Ce qui se passe, du coup, c'est qu'on passe la soirée ensemble, on danse ensemble. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, il était venu avec trois de ses amis et nous, on était trois. Donc très rapidement, ça a fait des paires. On a fini la soirée avec eux dans l'appartement de chez Rouliane. Donc on a commandé une bouteille, on a bu jusqu'à 5h du matin. Et puis à 5h du matin, Magali, elle nous dit « écoutez les filles, on part chez moi » parce que le lendemain, en fait, c'était la Coupe du Monde de foot, là où les Français, du coup, ont gagné en 2018. Et donc on est revenus chez Magali, on a dormi, le lendemain, on avait une sacrée gueule de bois, on s'est réveillés en se disant « ok, faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est la Coupe du Monde ». Donc on est sorti dans Bogota avec les drapeaux français sur les joues, on se faisait prendre en photo. Et je me souviens qu'ensuite on est retourné chez Magali, qu'on a regardé le match et qu'on s'est rendu compte que on avait gagné. Donc c'était fou de se dire qu'on était deux Françaises en Colombie, qu'en plus on avait gagné et qu'on partait le jour même en fait. On avait notre vol retour le soir même. On sort dans les rues de Bogota, on fait la fête, on profite des dernières heures. Et le téléphone de Magali sonne. Et c'est Rouliane qui lui dit « Écoute, Magali, j'ai vraiment envie de revoir Camille. Est-ce que tu peux l'amener quelque part pour qu'on se revoie tous ?» Donc, on va dans un bar, on prend un petit jus de fruits, parce qu'on avait tous la gueule de bois, et puis je revois Rouliane. Et je me dis « Ok, peut-être que ce mec veut du sérieux, mais c'est bizarre, puisque je suis en France et qu'il est en Colombie, quoi. » On s'isole un peu avec Rouliane, on parle de nos vies, et en fait, on se rend compte qu'on match parfaitement. Et moi, je me dis, c'est fou que quelqu'un me corresponde, mais qu'il soit à l'autre bout du monde, quoi. Et que je parte le soir même. Ce qui se passe, c'est que, on se dit au revoir. Et moi, j'étais un petit peu peinée, mais je le connaissais depuis un jour, donc c'était l'ordre naturel des choses, quoi. Et à partir de 18h, je commence à sentir que j'ai super mal au ventre. Et ça empire. Mais je me dis qu'avec des cachets, ça va passer. Donc j'en prends deux ou trois. Et puis je monte dans la voiture et direction l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je suis dans la file pour enregistrer les bagages et je commence vraiment à être pliée en deux et à me dire que ça va pas du tout le faire. On s'avance en fait pour rentrer dans l'avion et je suis pliée en deux et les hôtesses de l'air disent à Rose, qui parlait beaucoup mieux espagnol que moi à ce moment-là, pourquoi elle pleure, ça se voit qu'elle est très très mal, elle peut pas monter dans l'avion comme ça. Et moi je dis à Rose, mais si en fait on est obligé de partir, mes parents ils m'attendent, on part. Et l'hôtesse de l'air dit à Rose, non, vous pouvez pas partir. Moi, je me retrouve chargée dans un fauteuil roulant. Je sais pas où on m'emmène. Rose, elle est à côté de moi. Et donc, on prend pas l'avion. On m'emmène rapidement à l'hôpital. À l'hôpital, c'est très flou pour moi, parce que j'ai très très mal. Je me réveille le lendemain, je suis encore très nauséeuse, je me sens pas bien, et je me dis, ok, comment on va faire pour rentrer chez nous, quoi. Et Rose, du coup, elle s'était réveillée un petit peu plus tôt que moi, elle a appelé la compagnie, et elle me dit, écoute, c'est bon, on a un nouveau vol ce soir, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ils nous font rien payer. Et Magali, un petit peu dans la précipitation, elle a absolument voulu que je voie un médecin. Et en fait, elle me dit, y a quelqu'un qui va venir te voir et qui va te perfuser, qui va te mettre de l'eau, en fait. À ce moment-là, je suis déshydratée, je me sens pas bien, et j'ai besoin de retrouver des forces. Et je vois qui passe la porte de la maison et de ma chambre, Rouliane, qui en fait était récemment diplômée de médecine, et qui, du coup, venait à ma rescousse. Et je me dis, je suis dans un rêve, je demande à Magali ce qui se passe, et elle me dit, je savais pas quoi faire, j'avais pas de médecin sous la main. Et étant donné que lui, il est récemment diplômé de médecine, il pouvait très bien intervenir. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était un crush d'une soirée. Et là, il se retrouve à me voir vomir dans un sac plastique. C'est vraiment pas glamour. J'enlève la perfusion quelques heures plus tard. Je refais mes valises. Et puis du coup, de nouveau, direction l'aéroport. Et à l'aéroport, il arrive. Et en fait, il se comportait avec moi comme si c'était mon copain depuis un long moment, quoi. La main dans les cheveux, des caresses sur l'épaule. Et je me dis, c'est peut-être le début de quelque chose. Je prends enfin l'avion. J'arrive, en France. Et puis, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais fini de parler avec ce fameux Roulian. On a continué de discuter pendant 3-4 mois. Et puis j'ai pris la décision de retourner en Colombie toute seule, le voir en décembre de cette même année, en décembre 2018, de revenir 3 semaines. Et donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on a officialisé la relation, donc 6 mois plus tard. Ensuite, je suis retournée en France et j'ai eu l'opportunité, pendant mes études, de faire une année d'échange universitaire à l'étranger. Et donc, c'est naturellement, finalement, que j'ai demandé la Colombie, en parlant avec Roulian, en lui disant « Écoute, la relation à distance, ça va un moment, mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc, j'ai l'opportunité de venir en Colombie. Est-ce que tu serais d'accord ?» Et il m'a dit « Oui, évidemment, viens. » J'ai été prise. Et du coup, je suis partie en 2019 pour un an d'échange universitaire en Colombie et j'ai rejoint Roulian pendant un an. Du coup, à ce moment-là, c'est un peu l'apogée de notre histoire d'amour parce que du coup, on est dans le même pays. Je rencontre ses parents, je rencontre sa sœur qui a le même âge que moi parce que Roulian, il a 5 ans de plus que moi. Donc, il a une petite sœur de 5 ans de moins que lui qui devient rapidement une de mes meilleures amies. Et puis, on a le temps de faire tout ce qu'on veut, quoi. On a le temps de découvrir la Colombie ensemble, de voyager. Et donc, à ce moment-là, je l'aime énormément aussi parce que, justement, il est colombien. Il y a ce truc de un petit peu histoire d'amour impossible au départ parce que je suis française, il est colombien. Et finalement, tout est rendu possible. On vit notre histoire d'amour à fond. Sauf que le Covid arrive, le confinement arrive aussi en Colombie. Et à partir de mai, je me fais confiner. Et donc rapidement je lui dis écoute est-ce que je peux venir dans ta famille parce que je me sens seule, je suis loin de mes parents, j'ai pas encore fini mon année scolaire, c'est compliqué. Donc il me dit oui pas de souci, il y a l'appartement de ma tante qui se libère, tu vivras là-bas. Parce que c'est un pays très catholique là-bas et on n'a pas le droit de vivre avec son copain ou sa copine tant qu'on n'est pas marié. On passe beaucoup de temps ensemble, hein, finalement. Et puis moi, j'ai vraiment l'impression d'intégrer une famille et d'être dans ma famille, parce que du coup, les repas, je les partage avec ses parents, sa sœur. C'est un des meilleurs moments de ma vie, parce qu'on est tous très soudés, on se serre les coudes dans cette épreuve. Et moi, j'ai l'impression de l'aimer encore plus, du coup. Sauf qu'à un moment donné, donc il faut que je parte. Et en même temps, je savais que mes parents étaient très inquiets, que tous les jours, ils m'appelaient en me disant « Quand est-ce que tu reviens ?»« Viens te faire confiner à la maison. » Donc je savais qu'il fallait que je laisse Roulian et sa famille, et ma famille finalement, derrière moi. Je prends la décision de partir le 3 juillet, anniversaire de Roulian. Je me rappelle que ce jour-là, c'était un jour très compliqué, parce que on est très heureux de... fêter l'anniversaire de Roulian. On partage ce moment en famille, quoi. Mais je me rappelle que tout le monde était aussi très triste parce que tout le monde sait à ce moment-là que je pars le soir même. Et donc on est partagé entre la joie et ce moment de fête et ce moment de potentiel adieu parce que peut-être qu'on se reverra jamais. Moi, je commence à me sentir de plus en plus triste, mais je me dis que c'est un mal pour un bien parce que finalement, je vais rejoindre ma famille aussi. Donc... il m'amène à l'aéroport et on se dit au revoir sans pleurs, sans sanglots, sans mal même. Parce que moi, je suis persuadée que je vais le revoir et qu'il va revenir en France. Ou que je vais revenir en Colombie et que je vais passer ma vie là-bas. Je prends mon avion et c'est la dernière fois que je le vois de cette année 2020. Je suis très contente de rentrer en France, de revoir mes parents, de revoir mes grands-parents. Parce que je les ai pas vus depuis un long moment. Mais je reste persuadée qu'on va se revoir avec Roulian et qu'on va réussir à recaler une date. Et je vais réussir, malgré le Covid, à retourner en Colombie. Et lui, il est médecin. Et il me dit, écoute, ce que je peux faire, c'est que je peux demander à passer des examens français pour devenir médecin en France. Donc en fait, on avait prévu qu'il passe un équivalent de son diplôme en France. Donc on commence à se renseigner. Et on voit que l'épreuve peut se dérouler potentiellement en septembre. Il s'inscrit et il s'avère qu'avec la pandémie, tous les examens internationaux ont été déplacés. En tout cas, celui-ci a été déplacé. Et on n'a pas eu de date précise quant au déplacement de l'examen. Donc je ne savais pas quand est-ce qu'il viendrait. Mais ce que je savais, c'est qu'il ne viendrait pas en septembre. Et moi, je lui avais dit en juillet, au moment où je suis partie, Ben écoute, si jamais en septembre tu viens pas, on arrête la relation parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra, peut-être qu'on se reverra jamais. Vu qu'on n'avait pas de visu sur la pandémie, moi à ce moment-là, je sais pas qu'un jour on sera déconfiné, qu'un jour on ne portera plus de masque. Je me dis juste, ok, ben je peux pas continuer une relation où, à distance comme ça, je l'aime, mais l'amour là ne suffit plus pour moi. J'en avais marre des relations à distance, donc... En septembre, je prends la décision, quand du coup je sais qu'il pourra pas venir en France, d'arrêter la relation. Ce que je fais derrière, c'est que je perds pas espoir en l'amour, hein, mais évidemment, j'y crois plus trop. Je me dis que de toute façon j'ai toujours la tête prise avec Rouliane et que j'ai pas envie de me replonger dans une relation. J'essaie de prendre une année sabbatique parce que moi et les cours à distance ça fait clairement deux. Donc je me dis que je vais me servir de cette année un petit peu chaotique pour travailler et pour mettre de l'argent de côté. Pendant un an, je travaille en maison de retraite, j'enchaîne les petits boulots, enfin voilà. Et du coup, en octobre de cette même année, donc après l'annonce du fait que, ben voilà, Rouliane ne pourrait pas venir et le fait qu'on soit séparés, je pense que c'est l'occasion, avec la Covid, de reprendre contact avec des anciens amis, etc. Donc je m'amuse à demander à des gens du collège s'ils vont bien, à des gens du lycée, etc. Et dans cette frénésie de demander à tout le monde si tout le monde était ok avec la pandémie et comment tout le monde allait, je tombe sur une story Instagram de Gauthier et je me permets de lui envoyer un message en répondant à cette story. Donc je me souviens que la story, c'était l'image d'un fleuve, du Rhône en fait, qui était assez turbulent. Et je me dis que j'allais le taquiner parce que je savais qu'il était pompier volontaire. Donc je lui dis te noie pas. Hein. Donc je lui envoie ce message-là. Et je me souviens que du tac au tac, peut-être 2 minutes plus tard, il me répond en me disant... Non, t'inquiète, je me suis pas noyée. Comment tu vas, toi ? Et je me souviens avoir pensé, à ce moment-là, je pense, mais c'est pas possible. Là, il s'intéresse à moi, c'est la première fois qu'il me pose une question. Donc je me dis, c'est drôle, il est peut-être dans le même délire que moi de demander des nouvelles aux gens. Donc c'est cool, finalement, qu'il me réponde. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est une agréable surprise. Et ce qui se passe, c'est que, de fil en aiguille, je réponds à ses questions, il m'en repose d'autres, puis je lui en pose d'autres. Et pendant 2 semaines comme ça, on se parle non-stop. Moi, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me fait penser à autre chose. J'ai toujours Rouliane en tête, évidemment, parce que l'amour ne partira pas comme ça et je le sais. Mais ça me fait du bien de penser à autre chose, de me projeter en fait, de voir un futur. Et ça me fait aussi du bien de renouer avec des anciennes connaissances, des gens qui ont compté pour moi. Et donc pendant 2 semaines, moi je m'en donne à cœur joie de lui répondre. Et je vois que la conversation ne tarit pas, quoi. On a toujours des choses à se dire, on commence même à s'envoyer des vocaux. Donc j'entends sa voix, il a exactement la même voix qu'avant, quand on était au lycée. Du coup, y a plein de souvenirs qui remontent, et c'est plutôt cool. Donc je vis super bien cette période. Et au bout d'un moment, je me souviens qu'il me dit, écoute, Camille, viens, on se voit. Et moi, je me dis, ok, pourquoi pas, je suis encore dans cette démarche de revoir des gens qui ont compté pour moi, donc oui. Et donc, on s'organise pour se voir. On cale cette date, donc ce fameux jeudi soir. Je me souviens aussi que moi, j'ai passé la journée au travail, et je prends le métro, et je suis en tenue de travail, quoi. Je me rappelle d'avoir un petit chemisier à fleurs, un jean et des baskets, mais rien de très sophistiqué. Je m'étais pas préparée pour un date, en tout cas dans ma tête. On allait se voir comme si deux vieux amis se voyaient, quoi. Je me rappelle qu'il me regarde de haut en bas, il me scanne, et puis je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un move très bizarre. Et moi, j'ai le temps aussi de le regarder, et je me dis, mais attends, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai un chemisier, je sors du boulot, j'ai pas du tout pris le temps de me faire belle, entre guillemets, même si je me sentais pas moche, hein. Et lui, il avait un espèce de long manteau qui faisait très grand homme, avec une petite chemise, un petit pantalon bien repassé. Et je me suis dit, ouh là là, il était rasé de près avec une coupe de cheveux, il était fraîchement sorti de chez le coiffeur, quoi. On est allé au restaurant, on réapprend à faire connaissance petit à petit, on échange, moi j'échange beaucoup aussi au sujet de Rouliane, du fait que bah, voilà, je sors d'une relation qui m'a marquée. Lui pareil, il me dit qu'il sort d'une longue relation qui l'a marquée également. Clairement je me dis, il est toujours aussi beau, il a toujours cette même assurance, il est toujours aussi impressionnant, mais il a l'air plus mûr et plus détendu aussi. Moi, je me sens très bien avec lui à ce moment-là et je me dis, bon bah, ça ravive ce désir de jeune fille de 16 ans que là, à ce moment-là, j'essaye de faire taire parce que j'ai pas du tout la tête à ça, quoi. Et pour moi, c'est clairement juste un ami que je revois, c'est tout. Lui, contrairement à moi, je sens qu'il fait pas mal attention à mon physique, ou en tout cas, qu'il me regarde différemment. Mais j'ai pas envie d'interpréter ce qu'il pense. Donc la soirée avance, on se rend compte finalement qu'on se rejoint beaucoup. Et à la fin de la soirée, il me dit, bah écoute Camille, j'aimerais bien te revoir, est-ce que t'accepterais que je te raccompagne chez toi? Et je lui ai dit oui. Et moi je lui dis pour rigoler, ben viens, je monte sur le guidon de ton vélo. Et il me dit pas de souci, donc il me charge sur le guidon de son vélo et je me souviens que du coup ben, j'étais un petit peu contre son coup parce que forcément j'étais appuyée en arrière pour pas tomber à l'avant quand il freinait. Je suis sur le guidon de son vélo et je me dis mais là par contre ça ravive quelque chose, là par contre je ressens quelque chose, là par contre je commence à ressentir de l'attirance pour lui, enfin, cette attirance qui était, que je pensais morte, elle est de nouveau là quoi, je ressens plein de choses, je me sens bien. Et puis je veux pas que ce moment s'arrête, et au moment où du coup ben, il me dépose chez moi, je me dis ben, c'est dommage que ça s'arrête là. Et je sens pendant une fraction de seconde qu'il y a une petite tension, et qu'il y a ce moment d'hésitation où ben, moi j'hésite à l'embrasser, et je me dis bon bah ben, non, c'est peut-être trop tôt, surtout que j'ai encore Rouliane en tête. Et puis je me rappelle quand même que bah, 5 ans plus tôt, il m'a mis un vent violent et que j'ai pas trop envie de réitérer l'expérience. On se sépare et puis je reçois un message dans la soirée, donc juste après, qui me dépose. Il me dit « Écoute Camille, je ramène le petit déjeuner demain ». Et je me dis « Ok, c'est très bizarre, est-ce qu'il fait ça avec tout le monde ?» Mais ok. Et donc le lendemain matin, j'entends que quelqu'un crie mon prénom sous ma fenêtre, parce que du coup ma fenêtre donne sur la rue. Et donc je me penche à la fenêtre et je vois que c'est Gauthier et qui me dit « Bah descends, j'ai le petit-déj ». Et donc je descends et en fait il a ramené un banana bread qu'on partage sur un banc dans un parc. Et du coup je me dis « Bon bah peut-être que finalement il me laisse une porte ouverte et que c'est pas juste amical ». Donc je commence à me dire que potentiellement il y a quelque chose à faire avec et que je vais me laisser le temps de la réflexion parce que évidemment quand je suis à ses côtés, je le trouve extrêmement beau, ça me ravive plein de souvenirs, j'ai de plus en plus envie de passer du temps avec parce que je le trouve très intéressant et que je me sens surtout apaisée en fait quand je suis avec lui. Je me dis en fait que des moments comme ça, j'en veux plus avec lui. Donc après ça, on est amené à se revoir plusieurs autres fois, mais j'avais pas de signaux de sa part. C'est-à-dire qu'il y avait rien de physique, pas d'autres attentions, et donc au bout d'un moment, au bout de 2 semaines où on se voyait régulièrement, je me dis ben en fait je me suis encore fait des idées et il veut qu'une relation amicale. Et donc je me fais une raison et je me dis ok bah c'est pas grave, moi je l'apprécie beaucoup, si c'est comme ça, si c'est comme ça que ça doit être, ça le sera quoi, c'est pas grave. Et donc on continue de se voir et en fait la nature de notre relation va prendre un autre tournant puisque du coup c'est le soir où ils annoncent le couvre-feu mais on a quand même décidé de sortir. Je me rappelle qu'on était au Jardin des Curiosités à Lyon, donc c'est un jardin où on voit un petit peu la même vue que Fourvière, on a vu sur tout Lyon. On était assis côte à côte, on mangeait des chips et là on voit les gyrophares de la police, donc on voit des lumières bleues en contrebas, et on se dit, punaise, mais qu'est-ce qui se passe ce soir, quoi? On regarde l'heure et on fait, oh, punaise, c'est vrai, c'est le couvre-feu aujourd'hui. Je monte sur le cargo de Gauthier, et bah là, s'ensuit une course effrénée dans les rues de Lyon pour échapper aux policiers, parce que évidemment, on n'avait pas le droit d'être dehors. Et donc là, en pédalant, Gauthier me dit, écoute, Camille, j'aurais pas le temps de te ramener chez toi. Donc c'est soit je te ramène chez toi et je reste chez toi, soit on va chez moi et du coup tu passes la nuit chez moi Et je lui dis, bah écoute, oui, viens, on va chez toi, je comprends, c'est un peu... On est un peu en situation d'urgence, donc c'est parti, quoi. J'ai très très froid sur le vélo, donc je suis ravie d'être, d'être arrivée à bon port. Je monte chez lui, je découvre son petit studio, et je me dis que, d'ailleurs, c'est un studio qui lui ressemble énormément. Gauthier me propose une tisane, me dit, ok, est-ce que tu veux que je te prépare quelque chose de chaud, parce que je vois que t'as du mal à te réchauffer, je lui dis oui, etc. Et je sens à ce moment-là, quand je sors de la salle de bain, que quelque chose a changé, je sais pas trop quoi encore, mais que quelque chose change, parce que ben là, pour le coup, il est attentionné, mais c'est aussi que ben, je suis dans son appartement, donc je rentre dans son lieu, je rentre dans son intimité, et qu'il a pas de mal à m'accepter, donc je sens que quelque chose change. Et pourtant, du coup, toute la soirée, on va regarder Charlie et la chocolaterie, côte à côte, sur le canapé, on va même s'endormir sur le canapé, mais il va rien se passer du tout. Et donc, ben, au petit matin, vers 7, ben, à peu près vers 7h du matin, quand on se réveille, ben, moi je me dis, ok, ben, en fait, il se passera jamais rien. Et moi, il est hors de question que je fasse le premier pas. J'ai pas envie de me reprendre un vent, ben, donc je fais rien. Et je me suis mise un point d'honneur à ne rien faire. Ben, j'ai l'impression de lui plaire, et pourtant, il se passe rien, donc je comprends pas. Mais bon, je me prépare, il me propose de m'accompagner jusqu'à la bouche de métro. Donc on marche jusqu'à la bouche de métro, et à la bouche de métro, il m'embrasse. Et je m'y attendais pas du tout, parce que c'est le matin, parce que je suis démaquillée, parce que j'ai les vêtements de la veille, parce qu'on avait eu toute la nuit, il s'était rien passé, et je comprends pas pourquoi il m'embrasse devant la bouche de métro, un bisou tout chaste, mais en fait, qui signifiait le début, et qui signifiait surtout une suite en fait. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, bah là, il s'engage et il me montre finalement que j'étais pas n'importe qui, puisqu'il a pris son temps pour me montrer qu'il s'intéressait d'abord à moi, à ma personnalité, et qu'ensuite, voilà, il voulait être sûr que ce soit moi, et c'est pour ça qu'il a pris son temps, quoi. Quand il m'embrasse, je me dis c'est fou parce que pendant toute mon année de première, j'ai tout fait pour qu'il s'intéresse à moi. Et c'est au moment où j'ai été la plus loin de lui finalement, la plus détendue, la moins stratège, que j'ai réussi à lui plaire. Et surtout, je ressens une immense paix. Il m'embrasse et je me dis mais c'était évident, c'était la suite logique, c'est comme ça que ça devait se passer. Et en fait, c'était juste écrit. C'était juste qu'en fait, en première, j'étais pas la bonne personne au bon moment. Et que quelques années plus tard, je le suis devenue. Donc je ressens une immense joie et j'ai hâte que la relation s'entame pour de vrai et qu'on écrive ensemble. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble le 15 octobre. Et donc 3 ans où du coup on a adopté 2 chats, on a vécu dans 3 appartements différents... Et paradoxalement ou pas, j'ai l'impression que l'amour que j'ai pour lui grandit de plus en plus. C'est vraiment pas ce type d'amour passionnel qui s'éteint avec le temps, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un amour qui grandit parce qu'on a des projets ensemble, parce qu'on construit ensemble et qu'on a un énorme projet qui arrive. Puisque du coup, en novembre 2024, on a prévu de partir en Asie, sans avion, juste en train, en voiture, en stop... en bateau, du coup, pour 1 an. Et je trouve que c'est juste incroyable de voir tout le chemin que j'ai parcouru et qu'on a parcouru ensemble. Si j'ai tenu à témoigner, c'est surtout pour lui dire que je l'aime énormément et que je suis super heureuse de m'être accrochée comme je l'ai fait, parce que maintenant, on en rigole finalement de toute cette histoire de vent. C'est presque mignon maintenant de raconter cette histoire à nos proches. Et puis, c'est aussi pour dire qu'un non, c'est toujours momentané, parce que bon, il m'a dit non il y a 8 ans, mais finalement, c'est juste que j'étais pas la bonne personne au bon moment, et qu'avec un peu de persévérance, tout vient à point qui sait attendre, hein. Thank you.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.